redécouvrir Hélène Pedneau. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneau, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Quatrième série, les chroniques délinquantes de la vie en rose. Neuvième et dernier épisode. Chronique numéro 39. Y a-t-il une vie en rose dans la salle ? Bon, on pensait que c'était réglé, et voilà que l'eau remonte dans le tuyau et qu'il faut appeler le plombier en pleine nuit à 50$ de l'heure. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une vie en rose, ça. Alors quoi ? Changer le titre ? Il n'en est pas question, vu qu'on y croit encore plus qu'en l'infaillibilité du pape, ce qui est déjà un terrible péché. La vie en rose, c'est comme l'amour, en fait. On met le doigt dans l'affaire, et on se ramasse avec le bras dans le tordeur et le corps au grand complet. Ça ne prend pas de temps. Ça commence par un petit bec sur le front, ça passe par le French kiss, le grand frisson, le grand plongeon. Et la première affaire qu'on sait, on est dans un appartement avec une personne dont on ne peut plus subitement se passer. En plus, souvent, avec un enfant qui n'est même pas à soi, mais qu'on finit par aimer à la folie. Pas juste parce qu'il ou elle a le même sourire que sa mère ou son père, mais pour elle, pour lui, personnellement. Et par-dessus tout ça, il y a la vie qui recommence chaque matin, brumeux ou pas, avec les poubelles, la brosse à dents, les gardiennes et l'argent qui fuit par tous les pores de la peau, en plus de Provigo, de Jean Coutu et de tout le cortège de marchands qui ne nous veulent que du mal, c'est sûr. Qui cherchent à tuer l'amour, c'est sûr. Mais dans le vrai amour, qui n'est pas qu'en passant, le pire, c'est qu'on finit par aimer la rue Mont-Royal, Provigo et Jean Coutu, parce que l'amour rend invincible aux tueurs. L'amour est le plus grand choix que nous ayons à faire de notre vivant. La vie en rose, c'est pareil. Ce n'est pas une aventure, ce n'est pas juste en passant, ce n'est pas non plus en attendant autre chose de mieux. C'est là pour durer. Mais on ne peut pas durer toute seule. L'amour appelle l'amour. L'histoire que vit chacune des lectrices et chacun des lecteurs de La vie en rose à chaque mois est une chose très personnelle. Chacun, chacune, y met ce qu'il souhaite, y prend ce qu'il aime, y vit des émotions qui lui appartiennent. C'est peut-être pour ça que La vie en rose est fragile. En plus d'une revue mensuelle, c'est une histoire d'amour à vivre qui implique un choix, une volonté, un oui. Et avec ce oui doit venir un abonnement, parce que les tueurs, dans le cas de La vie en rose, c'est le manque d'argent, le manque de moyens, la compétition en kiosque. Pour être invincible, La vie en rose doit doubler ses abonnements. Ce n'est pas compliqué, 20 000 que ça prend. C'est une grosse opération. Chaque année, il faudra re-choisir La vie en rose, ne pas abandonner, redire oui. Il faudra y penser, ne pas laisser le coupon d'abonnement au hasard, ne pas le perdre surtout, trouver un timbre, le coller dessus et le mettre à la poste avec un chèque. Ce n'est pas compliqué pourtant. Comment ça se fait qu'on n'y arrive jamais ? Y a-t-il quelqu'un, quelqu'une dans la salle ? Évidemment, si vous n'aimez pas La vie en rose, si vous ne trouvez pas qu'il est important de maintenir sur le marché un magazine de l'actualité vu par des femmes, ne répondez pas. Il vaut mieux l'achever tout de suite. Elle aura quand même pu exister pendant 7 ans. On en est fiers. Nous, on croit que c'est encore possible. On croit que vous avez été distraite un petit moment ou que vous vous êtes endormie au volant dans une courbe. Mais il n'y a pas de mal, tout le monde s'en est sorti indemne. Nous continuons de croire que les féministes, femmes ou hommes, sont de plus en plus une race en voie d'apparition, comme disait mon amie Lise, pour la plus grande santé de toute la société. Parce que nous, les femmes, on n'est pas une cause en soi, mais on sait qu'on fait toujours beaucoup d'effets, surtout quand on est féministe et de bonne humeur. Rien de pire pour éliminer l'ennui de la planète. Nous suivez-vous ? Note de 1988. Cette dernière chronique, qui ne fut jamais publiée, avait été écrite en mai 1987, spécialement pour servir de lettre circulaire en vue d'une campagne massive d'abonnement. Mais il était déjà trop tard. Je crois que nous étions toutes trop fatiguées, particulièrement les femmes qui assuraient la permanence.
C'est un peu comme une enfant. Les enfants, quand ils aiment, ils n'ont pas de stopper. Hein? Ils n'ont pas de petit engrenage qui fait, qui dit « Ah non, je devrais arrêter ». Je devrais arrêter de l'aimer tant que ça. Quand ils aiment exactement. Et Hélène, elle est comme ça. Elle était comme ça. Mais je pense qu'elle est comme ça. Elle doit brasser pas mal. Si jamais il y a un au-delà, elle doit brasser pas mal et organiser des grands parties qui finissent plus, où il y a trop de monde, trop de chansons, trop d'artistes. Ça dure 4 heures, ça n'a pas coûté assez cher. Mais qu'est-ce qu'on a eu du bonheur. Elle était une marchande de bonheur. Elle n'a jamais fait beaucoup d'argent, mais elle avait un talent pour rassembler, un talent pour créer. C'était vraiment une multi-instrumentiste des mots. Ce qu'on lit surtout, ce qu'on chante, ce qu'on joue. Elle a fait de la radio, elle a écrit pour le théâtre, elle a écrit pour les journaux, elle a écrit pour les magazines. Elle était capable, elle avait vraiment une capacité à faire chanter les mots.
Chronique numéro 40, y a-t-il une onde hertzienne dans la salle ? Y avait-il jadis quelque chose de plus beau qu'une onde hertzienne qui ondulait, invisible et précieuse, jusque dans nos maisons ? Elle transportait sur son dos de chameau de la grande musique, la voix de Charles de Gaulle parfois, en des temps plus étouffants de l'histoire, et même le chapelet en famille dans la grande noirceur d'un Québec pieux et bâillonné. Indifféremment, les ondes transportaient l'espoir, le désespoir, la vie et la mort, le plaisir, les rires et la culture. Tout ça arrivait à destination, dans une petite boîte carrée à qui on essayait de faire cracher sa lumière sans trop de chat dans la gorge. Pour être bien sûr de ne rien perdre, on se rassemblait autour de la boîte, et les voix anonymes ou aimées nous rassuraient ou déclenchaient une verte discussion politique. Mais au-delà de tout ça, les ondes nous gardaient ensemble. Puis, il y a eu des antennes pour enlever la friture, puis des satellites. Voilà que nous étions branchés sur le monde à temps plein et que les timides ondes des débuts se muaient en bombardement. Elles se sont multipliées entre elles, l'intimité aidant, se sont complexifiées, puis elles ont fini par devenir consanguines. Ainsi, affaiblies, elles se sont mises à vouloir transporter des images pour sauver les meubles et retrouver plus facilement les épaves au fond des mers et sur les champs de bataille. C'était une belle idée. Les boîtes ont grossi, elles sont devenues transparentes. Elle continue parfois de rassembler les gens autour d'un match de foot dans un café ou d'une partie de hockey dans une taverne. Mais autrement, les gens doivent négocier leur horaire pour regarder leurs ondes préférées. On dit même que ça peut finir par une porte qui claque ou un divorce. Tout ça, c'est la faute des ondes hertziennes qui sont devenues gourmandes et mégalomanes. Nous, les humains, subissons leur tyrannie. Nous sommes leurs victimes, en fait, confortablement installés les pieds sur la table, une bière à la main dans cette civilisation du choix qui nous fait mal aux yeux parce qu'on n'en a pas pensé de l'éclairage. Nous pratiquons le surfing sur le dos des ondes, plutôt habile avec le temps, il faut bien le dire. Tout va bien ? Et pourtant, au commencement du téléphone, on ne savait pas qu'un jour on n'aurait plus besoin de se voir. On prenait ses rendez-vous par téléphone, et voilà que maintenant, on fait ses rendez-vous au téléphone. Pourquoi se déplacer ? Et puis, en ces temps de prolifération des MTS et du sida, il vaut mieux se prendre dans nos bras à travers un Minitel, c'est nettement plus sécuritaire. Bon, tout ça pour dire que je m'ennuie de la radio. Je me suis laissée un peu emporter. Tout ce qui divise les êtres humains me fait paniquer, moi qui suis tellement grégaire. On devrait payer un régime à la solitude pour qu'elle perde du poids et qu'on retrouve notre légèreté. Pourtant, me direz-vous, la radio est en pleine expansion. Regardez la prolifération des radios libres en Europe et la quantité de radios privées en Amérique. Mais qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces radios ? Est-ce qu'on a envie de les entendre ? La plupart du temps, elles nous cassent les oreilles dans une autre langue. Elle nous assène des nouvelles dont on se passerait et oublie les beaux moments, les gens simples qui savent vivre mais qui ne sont pas de la chair à scoop. J'aime la radio, mais je n'aime pas la manière dont on la pratique. La radio devrait être branchée directement sur l'intime, pas ailleurs, parce qu'elle est le médium par excellence de l'intimité. Pas d'image à défendre, on peut faire une entrevue en jeans avec un pull troué si on en a envie. La radio voyage léger, on n'en profite pas. On peut s'en aller seul avec un agra dans la jungle si on veut. On peut s'installer sur le coin d'une table de cuisine si on veut. Et nos voix s'infiltrent comme de l'eau sous une porte dans tous les interstices de la vie, dans les chambres d'amoureux ou de malades, sur les plages, dans les oreilles d'un ouvrier qui couvre le bruit des machines, dans le trafic de fin de journée, quand on est prisonnier de sa voiture, partout. Et en plus, on n'est pas obligé d'arrêter de vivre pour la regarder, on peut bouger, respirer. La radio n'est pas exigeante comme l'impératrice TV qui nous commande l'immobilité. C'est vrai, on peut toujours tricoter en même temps, je vous l'accorde. Mais on ne profite pas de la radio. On la pratique comme si elle avait été vaincue à jamais par knock-out technique, par la championne toute catégorie qui, elle, sait faire des images. La radio est complexée. Elle aurait besoin d'un rebirth pour se rendre compte qu'elle est unique, qu'il n'y a personne comme elle pour laisser place à l'imagination, à la fantaisie. Les voix qu'on entend nous font des images qui nous appartiennent en exclusivité. On peut fabuler, tomber en amour si on le désire avec cette voix qui nous endort ou nous réveille le matin. On peut tout faire avec la radio, y compris des images qu'aucun magnétoscope ne peut copier. Elle est encore le principal outil de la guérilla. Il lui faudra peut-être elle-même prendre le maquis pour se refaire une santé. Elle doit sortir, aller prendre l'air pour retrouver sa magie de débutante, du temps où elle était encore capable de changer en une seconde la couleur des murs gris ou de mettre un peu de bleu sur les idées noires. Peut-être alors retrouvera-t-elle sa puissance et deviendra-t-elle redoutable dans cette cohabitation avec sa sœur qui a réussi dans sa vie, la télé. Un seul inconvénient, nous devrons réapprendre à écouter, à s'écouter. Mais il me semble que ce ne serait pas un luxe. Quand j'ai commencé à faire de la radio en 1973, les gens que je recevais en entrevue s'étaient imaginé une femme grande, blonde, 35 ans, à cause de ma voix. J'étais petite, noire, et j'avais 21 ans. Alors vous voyez bien qu'il n'y a rien d'évident à la radio. Magazine Micro 4, février 1988. Note de 1988. Quelques mois après la fin de « La vie en rose », une réalisatrice de Radio-Canada, Simone Deluca, m'a demandé d'écrire une chronique délinquante sur le thème de la radio. Comme je m'ennuyais d'en écrire, j'ai accepté. Micro 4 ne circule que chez les télédiffuseurs au Québec, en France, en Suisse et en Belgique.
Elle avait des talents d'inspiratrice, de mettre les liens, les gens en lien les uns avec les autres, de réunir trois fois plus de monde qu'il en faut pour faire un événement, pour créer un événement. C'était plus vraiment une inspiratrice, une rassembleuse. Elle faisait des liens inouïs entre les gens, entre les situations, entre les histoires, et toujours poétique aussi.
J'ai voulu terminer ce recueil délinquant par un poème qui me semble résumer, à lui seul, tout ce que j'ai voulu faire dans ses chroniques pendant 5 ans. Suzanne Jacob a gentiment accepté de me le prêter. Je ne sais pas encore si je vais le lui rendre, je suis incapable de m'en lasser. Merci. Postface. Salut à vous qui avez soigné vos ongles aujourd'hui, à vous qui avez frotté l'argenterie et les médailles. Salut à vous aussi qui vous nommez par votre essence, à vous qui vous nommez par votre nature et qui défendez vos versions. Salut aussi à ceux, celles qui n'ont pas trouvé ici le siège qui leur aurait convenu, à ceux, celles qui auraient souhaité être ou croiser des invités d'honneur, à ceux, celles qui ne doivent rien à rien ni à personne, à ceux, celles à qui les banques ne prêteront pas. Salut aussi à vous qui cachez vos poèmes, à vous que la honte réprime, à vous qui questionnez cette honte, à vous qui transportez vos cris rognés matés, qui avez choisi le silence et que le silence oppresse. Salut à ceux, celles qui ont aujourd'hui fait ce qu'ils avaient à faire et aux autres qui ne l'ont pas fait, à ceux, celles dont le devoir est la misère, à ceux, celles dont le devoir est le désir, à ceux, celles dont le devoir est le devoir et je les plains. Salut à vous, dont le devoir est l'amour infini, à vous, dont le devoir est la science, à vous, dont le devoir est le doute, à vous, dont le devoir est la technique, à vous, dont le devoir est la statistique, à vous, dont le devoir est l'objectivité, à vous, dont le devoir est la prophétie. Salut à nous qui n'avons pas le choix par choix de n'avoir pas le choix. Salut à ceux, celles qui espèrent, à ceux, celles qui désespèrent, à ceux, celles dont l'espoir est la résignation, à ceux, celles dont l'espoir est la bulle d'hydrogène, à ceux, celles dont l'espoir est l'analyse, à ceux, celles dont l'espoir est la révolte, à vous, dont la résignation est la sagesse, à vous, dont la révolte est la tendresse. Salut à vous qui avez aimé les dinosaures et qui saluez leur disparition. Salut à vous qui avez sur les autres un peu d'avance, un peu d'argent d'avance, un peu de temps d'avance, quelques joints d'avance, quelques bières d'avance, un peu d'avance. Salut à ceux, celles qui seront remboursés. Salut à ceux, celles qui en savent long, plus long, beaucoup plus long, et qui savent même que le savoir contrôle à partir des sourcils. Salut à ceux, celles qui connaissent tous les secrets du chef et qui continuent d'en commander la salade. Salut aux sauveurs de meubles et aux sauveurs de planètes. Salut aux fabricants de bouées. Salut à ceux, celles qui attendent une réponse. Salut à ceux, celles qui n'en attendent plus. À ceux, celles qui n'en donneront pas. À ceux, celles qui n'en donneront plus. Salut à ceux, celles qui digèrent bien la crème. Il y en aura au menu ce soir. À ceux, celles qui voudraient bien que les aigles fécondent les poules et les moineaux, par vocation historique. À ceux, celles qui voudraient niveler les girafes et les hippopotames pour avoir toutes les têtes un peu exactement au même niveau que la leur, et si possible, un peu en dessous. Salut aussi à vous qui avez gobé qu'il n'y avait pas de queue sans tête. Salut à vous qui tournez en rond, à vous qui tournez autour du pot, à vous qui tournez tout en dérision, à vous qui tournez tout à votre profit, à vous qui vous tournez les sangs, à vous qui tournez à tout vent. Je vous dis, la terre tourne, la chance aussi. Salut à vous qui vous murez, à vous qui hurlez oui, à vous qui hurlez non, à vous qui vous évanouissez entre le oui et le non. Salut aussi à ceux, celles à qui on n'a rien dit, qui sans le moindre indice, sans le plan le plus vague, s'enfonceront dans les glaises muettes, trouveront enfin les os de la terre, en suceront toute la moelle, avant de les trouer pour les livrer aux poumons de ces vents, qui se seront levés jusqu'à la torture du fond de leur sang. Salut. Suzanne Jacob, 1979.
Moi, je me sens un peu toute seule, en fait. Il me semble que ça serait cool de ressentir un groupe de femmes, puis pas juste sur Facebook, tu sais. Fait que je sais pas, moi, la prochaine lutte féministe, comment que ça va, quelle forme ça va prendre, puis, tu sais, ça nous prendrait une Hélène Pedneau, number two, un clone, une version numéro deux. Parce que ça va tellement vite, on sait même plus à quel bout de se raccrocher, tu sais. Moi, je me sens paumée. Je me sens paumée en tant que femme en ce moment. Je sais pas c'est quoi je dois faire ou penser ou vers où me diriger. Il y a plein de choses qui me parlent pas pantoute. Puis j'ai l'impression que juste être dans mon essence, ça suffit pas. Mais comment on se réunit, tu sais? Comment on passe par-dessus justement cette peur que quand on devient trop forte puis trop menaçante pour la société, on nous ferme le clapet en nous tirant dessus, tu sais. C'est clair que ça refroidit un peu les ardeurs, puis c'est comment notre génération on va être capable de se réunir pour faire quelque chose d'aussi grand ou en tout cas d'aussi significatif que Hélène elle a pu initier, tu sais, puis tout ce groupe-là de femmes.
Venez d'entendre des chroniques délinquantes de La vie en rose de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Ariane Aymon, Marie-Hélène Falcon et Doriane Fabreg. Redécouvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposée par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Groux.